bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, bienvenue, c'est la bande originale au grand complet. Pendant cette semaine de vacances scolaires, nous vous proposons une sélection 100% bonne vibration en compagnie de la bande, bien sûr, mais de nos invités. Elles sont à l'affiche de l'une des pièces de ce début d'année, ça s'appelle Rabbit Hole, Lolita Chama et Julie Gaillet sont avec nous. On va évoquer donc dans quelques instants cette pièce au théâtre des Bouffes Parisiens. Ça s'appelle Rabbit Hole. C'est une pièce d'un Américain, David Lindsay Abert. Mais avant d'en parler, parce que c'est une comédie sur un sujet grave, mais c'est peut-être sur les sujets les plus dramatiques que l'on rit le plus ou sur lesquels on a le plus besoin de s'amuser. Jouons un tout petit peu.
Oui.
Petite interrogation orale. Dites-moi quand, et surtout pas vous, Julie, quand Julie Gaillet a commencé à prendre des cours de comédie, elle rêvait de devenir une actrice, mais avec la voix d'une autre actrice. Elle
la voix de Jeanne Moreau.
Exact. Oh, oh, ouais, mais t'as bossé, toi. Toi, t'as bossé.
Un peu.
La voix de Jeanne Moreau. Si vous voulez une voix comme ça, rauque, grave.
Ah, bah j'avais une petite voix aiguë plus jeune. Mais d'ailleurs, j'ai réussi un peu. Hein.
Ouais.
J'ai...
Ah, c'est la clope, ça fait du bien. Hein.
Alors j'ai arrêté. Ouais, voilà, l'alcool. Merci Nagui.
Qu'est-ce qui vous touche?
Tu vas avoir une réputation.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans la voix de Jeanne Moreau? Trouvez ça sexy?
Magnifique. Alors, outre le fait qu'elle jouait de manière très moderne, on le voit vraiment quand on la voit jouer. Mais donc, j'allais chez le marchand de. J'allais n'importe où acheter une baguette. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une baguette de pain, s'il vous plaît? Je me cassais la voix complètement pour. Pour essayer d'avoir une voix plus glamour.
D'accord. Non,
c'est sexy. Quand on a la voix cassée, en général, on trouve ça toujours un peu sexy.
Mais votre voix est très belle, Julie. Vous le savez, elle est très belle. Pour que Lolita Chama accepte.
Lolita
pour que Lolita.
Moi, j'ai toujours eu la voix grave, hein, depuis que je suis petite.
Mais ça vous va bien aussi?
Ouais. Donc.
En même temps, je vous imagine pas avec une autre voix. C'est bizarre de dire ça comme ça.
Ça tombe bien. Hein.
Oui, c'est pas assez pratique.
Ça tombe plutôt bien. Hein.
Pour que Lolita Chama accepte d'aller à l'école, il fallait quelque chose de précis, mais quoi?
De l'argent?
Non.
Une robe?
Non. Ah, pas loin.
Une tenue vestimentaire particulière?
Ouais, mais des bottes, à quel point?
Des baskets,
des chaussures de.
Une doudoune.
Un maquillage, un serre-tête.
Du rouge à lèvres.
Bah, un bandeau, les oreilles de Mickey, de Minnie.
Du rimel.
Ouais, c'est du maquillage.
C'est plus maquillage.
Elle souffle.
Du mascara.
Non, elle valide.
Non, mais là, juste la question, est-ce que c'était plus ce maquillage ou la robe de Mickey et Minnie? Parce que moi, on m'a dit que vous vouliez être déguisé, en fait.
Oui, c'est vrai. Je voulais être déguisé en chat.
Ah,
c'est un peu les deux.
Et ouais.
Ah ouais, quand même.
Okay.
C'est compliqué.
Ouais, j'étais déjà. Vous étiez joueuse.
Mais quand t'arrives en terminale habillée en chat, hein, c'est vrai.
Après, ça s'est arrêté. Hein, quand
aussi
même.
Dingue que dans la pièce, quoi.
C'est ça.
Mais c'est-à-dire quoi? Vous faisiez des fausses moustaches? Vous...
Bah, j'avais envie d'être déguisé en chat pour aller à l'école, sinon je voulais pas y aller.
Non, mais d'accord, ça c'est un caprice. Généralement, dans ces cas-là, il se passe quoi? On est grondé.
Un caprice tous les jours pendant 10 ans, voilà.
Ouais, c'est ça, ce que j'ai dit à un moment.
Non,
ça
s'est arrêté quand même assez vite. J'ai pas jusqu'à 13 ans quand même. C'était dans la petite enfance.
Mais au début, vous alliez vraiment déguisé à l'école?
J'avais envie d'être maquillée comme un chat.
Ça, c'est l'envie, mais est-ce que la réalité.
Oui, c'est vrai, on me le faisait.
D'accord, très bien. Quelle scène Julie Gaillet a-t-elle eu un énorme plaisir, un plaisir même particulier à jouer dans 10%?
Avec Joey Star.
Mmh.
Ah, le petit clin d'œil à l'actualité du moment.
C'est-à-dire.
Je crois pas. C'est ça.
La scène dans le foin.
Avec Joey Star.
La baston.
Bah, oui, mais laquelle? Quelle scène avec.
Non, c'est une scène bien précise.
Pas avec Joey Star.
Non, c'était pas Joey Star alors. C'est une scène bien précise.
Avec Camille Cotin,
c'est vrai que c'est une vanne. C'est vrai que
C'était lié à l'actualité du moment.
Et c'est ce qui a fait
c'est
qu'on.
C'est pas faux.
Ouais.
Mais
donc. C'était quoi?
Je vois pas de quelle scène tu parles avec Joey Star.
Non, moi je pense à l'actualité du
moment. Dans les buissons? Non. Pas celle avec Joey Star.
Pas celle-ci.
Non.
Celle où je cours derrière quelqu'un.
Ouais, mais arrête.
Non.
Un plaquage. Pardon.
Je me souviens plus.
Ils n'ont pas trouvé.
Plaque un paparazzi.
Un paparazzi.
Plaquer un paparazzi.
Dire, mais... D'où l'actualité.
Mais là, la question, c'était, on a tous envie de plaquer les paparazzi, c'est pas ça le problème, mais c'était écrit sur mesure, les scénaristes ont fait exprès, évidemment, pour vous tendre la perche. C'était une demande personnelle ou c'est un hasard de la prod?
C'était un hasard de la prod, c'est une histoire vraie, c'est des histoires vraies, parce que Dominique Besnéard qui a raconté, écrit, et c'est un peu ses anecdotes et ses mémoires, et puis après on a un un peu réadaptée. Mais cette scène-là spécifiquement, elle était déjà dans le scénario et je peux vous dire que j'ai pris un plaisir réel et intense à faire cette scène avec la cascadeuse. On a beaucoup ri. Voilà.
Quelle phobie partage-t-elle Lolita Chama avec sa maman? Elle a une phobie.
La foule.
J'ai le droit de répondre.
Le noir. Elle me connaît. Donc.
Les araignées, les serpents.
Les ascenseurs.
Les blattes. Oui.
Je vais accepter parce que nous sommes au sixième étage de la maison de la radio. Voilà. Et vous êtes montée à pied?
Oui, je suis montée à pied. À New York, je monte quand même pas à pied.
L'Empire State Building.
Je me fais violence quand même pour prendre un ascenseur. Mais
la claustrophobie.
La claustrophobie. J'aime pas les ascenseurs. J'aime pas les tunnels.
Et alors, pardon, les voitures, c'est un espace.
J'adore les voitures.
Mais les grandes,
c'est
les
vannes.
Les petites, les grandes.
Ah ouais?
Ah oui.
Non, mais une voiture, c'est. Enfin, nos ascenseurs sont plus grands que certaines voitures.
Oui, mais la voiture, je peux en sortir si je veux. C'est vrai, personne ne va m'enfermer dans une voiture, enfin.
Ouais. Enfin,
on ne sait pas.
Mais je passe dans les tunnels. si vous demandez poliment.
Ouh là 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 là.
C'est ça, alors que l'ascenseur, pour le coup.
On est plus mal.
Là, si je suis bloquée, je suis bloquée.
De temps en temps, Internet,
mais je comprends très bien. Je comprends. C'est tellement angoissant. Ah ouais, je comprends.
Donc,
j'ai monté mes 6 étages tranquillement.
Les attractions à Disneyland, genre l'ascenseur de
la
tour de la Terreur.
Je vous rassure, Nagui, c'est pas pour moi.
C'est pas, ok, d'accord. Non, mais j'étais resté avec les chats et avec Mickey, vous voyez, je me dis, voilà. Bon, peut-être qu'elle aime jouer. Quelle maladresse a commise Julie Gayet dans un restaurant très chic, ça se passait à Berlin.
Elle a fait tomber quelque
elle
chose
sur la client.
Elle a fait tomber un serveur.
Elle est bien renseignée quand même.
Dans les interviews, vous dites que vous êtes un peu Pierre Richard, vous êtes maladroit.
On a trouvé là.
Je ne sais pas si vous avez entendu Julie, mais à la fois vous avez donc fait tomber quelque chose, vomi.
Ah non.
Non, si, ce qu'elle a dit, elle a dit que c'était vomi. Non, c'est plus.
Ça, c'était sur l'anecdote.
C'est plus un éléphant, ça trompe énormément. C'est-à-dire vous avez fait tomber toute une table.
Oui, c'est ça. La nappe est restée accrochée. C'est vraiment ce truc où tu tires
c'est
la nappe.
Génial.
Je me suis levé la nappe avec moi et. Toute la table.
Sauf qu'il n'y a qu'au cirque où les couverts restent sur la table pendant que la nappe a été tirée, c'est ça, elle a tout
est tombée. Ah, les comédiennes, qu'est-ce que ça fait pas pour se faire remarquer hein.
Et j'imagine qu'évidemment vous essayez de partir le plus discrètement possible à ce moment-là, sinon c'est pas drôle.
Là, on est un peu tétanisé, oui, alors là c'est vraiment... Oups, pardon.
Comment on gère ces moments de solitude,
Pierre Richard? Voilà, en rigolant, l'humour.
Non. Quel instrument de musique Lolita Chama a-t-elle appris enfant?
Le piano, accordéon, le violon,
l'harmonica, la guitare, le ukulélé,
le cymbale,
le triangle.
Non.
C'est
exactement l'opposé du triangle.
Saxo?
Non.
Le carré.
Batterie?
Non.
L'opposé du triangle.
L'orgue.
Cymbale.
Alors c'est dans l'idée.
Le violoncelle.
Difficilement déplaçable.
La contrebasse?
Pas loin.
L'orgue.
La harpe, oui, bien vu.
La harpe.
La harpe.
Oui. J'ai fait un peu de piano quand j'étais toute petite et puis après j'ai dû choisir un instrument, donc j'ai choisi la harpe.
D'accord.
Okay. C'est très lourd, non? C'est lourd, hein?
C'est pas si lourd que ça.
Mais on peut pas se balader
enfin,
avec
pas se balader
sa propre.
Avec, c'est vrai. Voilà. Surtout quand on prend pas les ascenseurs.
Ouais. Donc ça va.
Ça devient compliqué.
Eh bien, c'est Lolita Chama.
Non mais Lolita, ça veut dire que lorsque vous alliez au conservatoire ou en cours, vous y alliez sans votre harpe. Il y en avait une autre qui vous attendait sur
bien
place.
Bien sûr.
Parce qu'on peut pas se balader
évidemment.
Avec son instrument dans ces cas-là.
Il y avait ma prof de harpe avec sa harpe, mais j'avais une harpe chez moi. Qui est toujours
à la maison.
On a tous une harpe à la maison.
Et, oui, donc vous savez toujours jouer, donc vous vous entraînez?
Pas très bien. Sincèrement, ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Et ça apporte quel plaisir de jouer la harpe, parce que il y a ce contact avec l'instrument. Donc j'imagine qu'on a quoi, les vibrations de la musique.
J'avais l'impression que c'était l'instrument des fées, donc ça me faisait un peu rêver.
Ce que j'allais dire, c'est élégant, c'est une danse avec les mains.
C'est ça. Donc
ça fait mal aux doigts.
Ça doit faire mal aux doigts, non?
Pas très.
Oui,
un petit peu, si vous avez raison.
Un petit côté. C'est
vrai.
Est-ce que c'est difficile à jouer comme instrument?
C'était assez difficile, mais je crois moins difficile que le violon. On arrive à faire des beaux sons plus vite que le violon.
Que le violon, c'est l'instrument le plus difficile au monde, oui, parce que la note, on doit la trouver avec son oreille.
Exactement.
Et elle n'est pas marquée sur l'instrument lui-même. Bien, parlons maintenant de votre instrument, celui de la voix, de vos corps, puisque comédienne au théâtre des Bouffes Parisiens, avec cette pièce... dont la toile de fond est le décès d'un enfant. Si on dit ça comme ça, on se dit waouh, ça va plomber. Or, c'est une pièce où l'on rit. Alors, comment rire avec un drame, puisque vous êtes la maman qui a perdu un enfant. Il a 4 ans. Il jouait avec le chien. Il a été victime d'un accident. J'ai envie de dire
derrière le ballon. Ouais, voilà,
de vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire
un fait divers. Ouais.
Le chien, voilà. Le chien court. La voiture veut éviter le chien, mais n'arrive pas à éviter malheureusement l'enfant. C'est un jeune étudiant qui était au volant de cette voiture, qui cherche lui à se faire pardonner. Et puis parallèlement à ça, le début de la pièce, votre sœur, jouée par Lolita Chama, vient vous annoncer qu'elle est enceinte.
Voilà, et c'est un peu cette écriture anglo-saxonne américaine, puisque vous disiez que c'est un auteur américain contemporain, qui mélange, et il y a cette écriture très très moderne, très contemporaine, très rythmée, très quotidienne même, avec, ça se percute avec la famille, avec les relations un peu compliquées d'une famille, comme vous avez vu, Lolita Chama. Voilà, et
je suis tout à fait normale, mais pas du tout.
Et donc très étrangement on s'amuse, voilà, il y a quelque chose. Et alors peut-être aussi ce rire salvateur, peut-être aussi parce que ça se passe dans une famille comme ça et ça va très très vite. Ça parle d'un couple qui ne vit pas le deuil de la même manière, comme souvent voilà dans les deuils
entre le mari et la femme, oui.
Voilà, et grâce à la sœur, leur mère, voilà, grâce à la famille, va réussir à passer, ou en tout cas va trouver une façon de chacun d'accepter, de comprendre l'autre ou d'avancer.
Ils sont tous un peu déjantés, vous la première quand même.
Oui, enfin, pour rejoindre ce que disait Julie, je pense que c'est surtout la pièce, c'est surtout l'histoire d'une famille qui se reconstruit différemment après la mort de cet enfant. Et en fait, c'est aussi sur des rapports d'amour très forts finalement entre eux. Quand on a repris le spectacle là, il y a quelques mois, j'ai redécouvert ça en la rejoignant, c'est-à-dire que ils souffrent mais ils s'aiment aussi beaucoup, et c'est comment chacun se reconstruit.
C'est la résilience, c'est ça,
la résilience, sur la résilience. Mais ça pourrait être un drame, un drame comme on vit un drame, c'est-à-dire là c'est sur la mort d'un enfant, mais c'est un énorme drame dans une famille, et comment on le dépasse et on le dépasse.
On est troublé, on est renvoyé à des idées que l'on n'imagine jamais. Jamais des parents ne pensent à la mort de leurs enfants. C'est plus la nature, l'ordre naturel des choses. Oui. C'est plutôt les enfants qui pensent à celle des parents.
Mais là, c'est comment gérer ce deuil-là. C'est vraiment, évidemment, c'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, voilà.
Et bien, la première scène, en fait, vous êtes toutes les deux en scène, vous en train de repasser, de ranger des vêtements de bébé.
Pour les donner à la Croix-Rouge.
Voilà. Et votre sœur débarque d'une manière un peu petite frappe, quoi, pour dire, d'ailleurs elle sort d'une baston dans un bar.
Elle essaie de me faire changer d'état d'esprit ou d'être légère comme elle l'a toujours été. C'est mon trublion, c'est ma petite sœur, elle sait me faire rire, elle sait me... c'est vraiment une relation de sœur.
De la sortir de ça, ce qui ne marche pas vraiment au fond, parce que ça c'est le début de la scène, et après elle lui apprend quand même qu'elle est enceinte, et là ça va créer quand même un nouveau bouleversement pour la famille.
Comment accepter une forme de bonheur dans une drame, famille après un drame. C'est ça. On se sent forcément coupable.
Mais c'est vrai que, comme disait Julie tout à l'heure, c'est une écriture quand même qui oscille beaucoup entre un sujet très grave, mais aussi beaucoup de rire. Enfin, c'est la scène de l'anniversaire est très drôle. Enfin, il y a quand même des moments vraiment de très très enlevés, et où toute cette famille.
Mais vous avez l'air surprise par les rires du public. C'est la manière dont vous en racontez.
On s'y attendait pas du tout.
C'est ça.
Ah ouais. On a déjà joué à Lyon, on a fait une tournée, là on reprend au Paris, voilà, au Théâtre des Célestins. Et c'est vrai que la première fois, avec mis en scène par Claudia, qui donc dirige le Théâtre des Célestins, et c'est vrai que la première fois qu'on l'a joué, on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que vraiment les gens rient beaucoup et très fort. Aussi pleure, donc c'est très étrange. Moi, je n'ai pas joué au théâtre depuis 20 ans, donc j'ai aussi ce trac assez fou. Et on les entend, c'est un rapport tellement bouleversant d'entendre les gens pleurer, rire. Enfin, c'est un tourbillon, c'est une pièce d'une. Elle a gagné le prix Pulitzer, cette pièce aux États-Unis. C'est une pièce très moderne, très. C'est un coup de poing, quoi. C'est. On part. une manière de se soigner ou en tout cas de transformer. Et ça fait du bien.
Il faut dire qu'il y a un personnage aussi qui est hyper attachant, c'est celui de la mère, qui n'a de cesse de raconter l'histoire des Kennedy, qui est vraiment une hécatombe toutes les minutes.
Ça, c'est drôle, ça.
Et, qui, ils sont tous morts, comment la pauvre mère.
On a la sensation qu'elle essaie de donner une sorte d'exemple.
C'est sur la fatalité. C'est sur la fatalité.
Mais même au-delà de ça,
il y a des malédictions.
Oui, il y a des malédictions, mais au-delà de ça, c'est dire, voyez, là, les Kennedy, c'est bien plus grave que nous, donc finalement, c'est une façon aussi de se dire que ce deuil, on peut peut-être arriver à le faire.
Ouais, bien sûr.
Et elle se compare un peu à Rose aussi, Kennedy, c'est-à-dire de dire cette mère qui a vu partir tant de ses enfants, elle dit bah moi aussi je vois ma famille partir.
Oui, puis elle essaye de secouer mon personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est vrai qu'elle veut être parfaite, elle veut tout tenir et être parfaite, ne pas pleurer, ne pas bouger quoi.
Et c'est je crois quelque que chose qui est très beau dans la pièce aussi et qui marche très fort, c'est que comme on disait cette atmosphère anglo-saxonne, c'est des personnages très précis, comme ça faire bien les Américains, et je trouve que ça, ça fonctionne très bien.
Exactement.
Le rôle de Julie, la mère qui a besoin de tout contrôler, moi la sœur qui est complètement agitée, et qui est très à fleur de peau, le mari fragile, la mère qui...
L'étudiant coupable aussi, qui veut...
Il y a quelque chose comme ça de très précis dans l'écriture et de dessiner, et ça je crois que ça joue beaucoup.
Avec Patrick Catalifo, Christiane Cohen-Di, Renan Prévost et donc vous, Lolita Chama et Julie Gayet, jusqu'au 31 mars au Théâtre des Bouffes Parisiens, et ça va être un succès, Père Albert.
Mais bien sûr.
Tout d'abord, je vous dérange, mon père, peut-être. Vous
étiez... Non, pas du tout. J'allais boire un petit coup.
Un petit peu d'eau bénite, peut-être.
M'hydrater la glotte avec de l'eau de l'eau.
Merci.
De rien. Alors, tout d'abord, mon cher Nangui, une fois n'est pas coutume, je tiens vraiment à vous féliciter. Que constate-je ? Eh bien, que vous avez décidé de ne plus retomber dans la rigolade systématique, la bouffonnerie fastoche et le cynisme à la mode, dont les histrions qui vous entourent encore dans ce studio continuent laborieusement à faire leur fond de commerce zygomatique. Oui, Nangui, je vous félicite d'opter enfin pour une programmation empreinte d'une profonde humanité, comme c'est le cas aujourd'hui, avec l'invitation de Julie Goyet. Coucou, Julie. Et de Lolita Chama. Coucou, Lolita.
N'ayez pas peur.
Admirable, toutes les deux. Taisez-vous, laissez-moi, c'est mon moment. Admirable, toutes les deux dans l'incarnation des deux visages de la maternité. La maman douloureuse, Mater Dolorosa, et la maman joyeuse, Mater Gaudiosa. D'un côté, celle qui pleure son enfant, et de l'autre, celle qui attend son enfant. C'est beau. J'aurais pu bosser pour Télérama. Bonne fin d'émission.
La bande originale, ça continue en musique avec Del Grey et Respectez-nous.
Nous, je l'ai pas fait. J'attends pour nous. Yeah.
C'était Del Grey sur France Inter avec Respectez-nous.
La bande originale. Avec Nagui.
Rabbit Hole, ça se joue au Bouffe Parisien et on se posait la question, enfin on a un peu la réponse dans, dans la pièce avec Leïla. Ouais, le titre, il est présent dans la pièce, mais comment l'expliquer, comment le justifier sans déflorer ce qui se passe?
La recherche de quelque chose, ça peut être pour dépasser un deuil et ça peut aussi être les rêves ou là les univers parallèles, on va dire ça comme ça, puisque c'est cette espèce
Rabbit Hole,
de monde.
Il y a le côté Alice un peu au pays des merveilles. Voilà.
Le terrier, Rabbit Hole.
C'est le terrier, et là puis, dans l'histoire, c'est justement
c'est le
très américain,
le
trou noir, c'est le trou noir.
Des spécialistes, voilà. Ouais, c'est ça, des scientifiques.
C'est ce qu'on comprend pas, mais qu'on. Justement, le personnage de celui qui a tué l'enfant de Becky,
Jason,
pardon. Joué par Ronan.
Tous les prénoms. Hein,
on est très fan. Mais c'est parce que t'es pas grave. Voilà.
Revient et lui, essaie de la faire accéder à cette dimension, justement, d'un univers parallèle, de quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'invisible, mais qui aide à guérir. Aussi.
Et puis il y a les deux comportements, celui du papa, celui de la maman face à cette situation qui est très différente. Elle est presque, j'allais dire hormonale, c'est peut-être pas le mot le plus délicat, mais est-ce que les femmes se reconnaissent dans votre comportement? Est-ce que c'est un comportement très...
Ça peut être complètement l'inverse.
Non,
c'est pas du tout une question de...
de sexe
non,
ou de genre.
De sexe, pas du tout. C'est vraiment une façon d'aborder, d'affronter, de se retrouver face à la mort, face au deuil, chacun le vit, on l'a tous vécu un deuil, pas forcément d'un enfant, mais on le vit pas.
Non, on s'est tous posé la question de savoir est-ce qu'il fallait garder un objet, garder une pièce telle qu'elle est, ou la transformer en musée. Enfin, c'est assez particulier aussi dans le comportement.
Mais disons que lui retrouve, grâce à des groupes de parole, alors c'est très américain, mais cette idée d'aller parler, ça peut être voir un psy, voir quelqu'un, être accompagné, et voudrait que sa femme fasse la même chose, et elle ne veut pas de ça, elle est plus dans l'imaginaire, et elle va trouver, alors c'est aussi ça nos métiers, hein, comédien, d'aller chercher ailleurs, autrement, elle a envie de trouver sa façon. Et très étrangement, quand elle affronte, et c'est quand même terrible, celui qui a tué son enfant, donc dans la pièce, c'est très très fort ce moment-là, c'est lui qui va lui apporter la solution, puisque lui croit aux univers parallèles, à la physique quantique, et tout à coup, un monde s'ouvre et elle se dit que peut-être quelque part...
Et ça questionne aussi les rapports amicaux, aussi, c'est-à-dire comment se comportent les proches lors d'un décès. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il se manifeste? Ou est-ce que
mais j'avais joué dans un film, moi, il y a très très longtemps, qui s'appelait Clara et moi, sur ça, sur la maladie, comment on peut, face à quelqu'un qui est malade, on a tous, ne pas juger, c'est-à-dire chacun, on a sa propre façon de réagir. Et à l'époque, j'avais perdu une amie très très proche de moi, et j'avais voulu jouer Clara et moi, parce qu'elle s'était séparée de son compagnon depuis 7 ans, et il avait quitté au moment où elle était très malade, et j'avais pas compris, je me disais, mais comment il a pu faire une chose pareille? Et elle ne lui en voulait pas, elle dit, je veux pas qu'il reste par pitié. Et j'avais décidé de jouer dans Clara et moi à cette époque, cette femme qui tombe malade et son compagnon qui l'a quitté.
Pour la mémoire de votre amie.
Pour la mémoire de mon amie. Et la même chose là sur le deuil, sur la façon dont on vit le deuil, on passe ces étapes, chacun ne pas juger.
C'est un très beau film d'Arnaud Viard.
Voilà, on en reparlera tout à l'heure avec Pascal Neveu, qui est psychanalyste et psychothérapeute, qui est notre invité tout à l'heure dans la deuxième partie. Ouais, et on évoquera avec lui justement la manière dont on peut gérer entre guillemets ce genre de drame, parce que c'est vrai que, en tout cas dans notre culture occidentale, on est moins près que certaines civilisations ou certaines cultures beaucoup plus comment dirais-je, proches, en tout cas qui peuvent même faire une fête de certains décès ou enterrements. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, voici l'humeur de Guillermo.
Ah oui, non. Merci, bravo Guillermo.
C'est déjà bien Guillermo.
Ah ouais. Ça va les amigos?
Ouais,
tu vois, vous commencez à le savoir. Moi j'aime bien la science. Peut-être pas autant que elle aime boire. Mais j'aime bien. On critique souvent la science. Je rappelle que sans la science, Einstein, il aurait jamais niqué, quoi. Il avait deux passions, Einstein, la science et le banjo. Et je peux dire que quand il jouait au banjo, t'avais pas envie dans la pièce, quoi. Franchement, Einstein, sans le côté, filles, vous avez entendu parler de Newton? C'est un con. Franchement, la gravitation, ça marche pas comme ça. On apprend dans ma chambre. Il parlait comme Patrick Sébastien Einstein. Enfin, faut regarder les archives de l'INA. Mais ce que j'aime le plus dans la science, c'est ce que c'est? Mathieu Vidard. Mathieu Vidard,
la tête au carré.
Mathieu Vidard, il a une belle voix, il m'apaise comme ça. Mathieu Vidard, il me rassure, il calme mes angoisses. Si j'ai un cancer un jour, je veux que ce soit Mathieu Vidard qui me l'annonce, non, et qui me dise Ernesto, c'est le pancréas. Il te reste 9 jours. Puis mais t'en fais pas Ernesto, parce que figure-toi qu'il y a une petite étude cambodgienne qui vient de sortir, qui dit justement que chez les souris astigmates à poil kaki du sud Mexique. Genre, oh, putain Mathieu, c'est formidable. Je serais content d'avoir le cancer avec lui. Franchement, je suis fan de Mathieu Vidard. Il a sa chronique le matin à 7h20 et ça m'apaise parce que 9 fois sur 10, je suis encore dans l'angoisse de la chronique de Daniel Morin. Quand il est là, ouais, t'allumes la radio un peu trop tôt, t'entends 6h57, c'est à vous Daniel Morin. Ah, Donald Trump, petite souillure amérindienne fan de Dick Rivers. T'es là, mais enfin, t'es dans ton lit, t'es là, mais enfin, monsieur, pourquoi vous faites ça, etc. C'est le Daniel, il sait que je l'adore, hein, mais quand tu l'entends 6h37, je pars en tachycardie, quoi. J'ai la tension à 36-37. Vraiment, pour peu qu'il y ait quelqu'un d'autre dans mon lit à ce moment-là, franchement, elle croit que c'est un cambriolage. Vraiment. Et donc, hier matin, à peine remis de Daniel, 7h20, j'entends Mathieu Vidard. Mathieu Vidard qui parle de science, et je suis dans mon lit, je suis bien, je suis en sécurité. Ça. Avec Mathieu, t'es bien, c'est un placenta sonore, quoi, Mathieu. Ouais. Je dis pas que je suis excité, je suis pas excité, mais. Et donc, je l'entends dire pourquoi la monogamie est présente chez certaines espèces alors que les mâles sont des usines à spermatozoïdes et qu'ils en possèdent suffisamment pour féconder plusieurs femelles. Et je me dis, Mathieu, tu me cherches. Là, tu me cherches, Mathieu, tu me cherches. Hein, c'est le matin, je suis encore dur de la notier, là. Vraiment. Et tu me parles d'usines à spermatozoïdes et de féconder les femelles. Tu me cherches, Mathieu, tu me cherches. Bon, sauf que Mathieu, il parlait de la monogamie chez les animaux non humains. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'il y a une petite étude créole qui dit que chez les campagnols transformistes à pattes rétractiles du Luxembourg, ça ken comme dans un tourbus. Et non, mais vraiment, il y a des scientifiques texans vraiment qui ont étudié les comportements monogames chez une dizaine d'espèces, notamment des oiseaux, des grenouilles et deux joueurs du PSG. Ils n'ont pas voulu dire lesquels, mais je suis sûr que c'est un Brésilien. Je suis sûr que c'est un des Brésiliens. Ma main a coupé. Et je me rappelle, en fait, il y a toujours un. C'est toujours un peu mystérieux le comportement monogame chez les animaux non humains parce que c'est très exceptionnel en fait. Ça touche 2% des espèces seulement. Dans l'immense majorité des cas, chez les animaux, les mâles ils jouissent puis ils font aller, on s'appelle. Hein. Tu vois vraiment, avec les femelles poisson lune qui fait attends, tu veux pas rester un peu. On pourrait regarder LCI. Enfin, tu vois, non, vraiment, non, c'est gentil. Je sors d'une relation un peu compliquée avec 9000 femelles parce qu'ils parlent un peu comme Patrick Sébastien aussi. En fait, les poissons lune, vous savez que les femelles poissons lune elles portent la charge de l'éducation comme la plupart des animaux en fait. C'est pour ça que t'as très peu de poissons lune femelles qui sont cadres. Voilà, donc vous savez qui est monogame? Philippe de Villiers. Mais pas que, vous savez, chez les non-animaux, vous savez qui est monogame chez les animaux? Les canards.
Ah oui.
Et vous allez me dire, ouais, voilà, et vous allez me dire, je parle tout le temps des canards et qu'il y a un truc chelou qui couve, etc. Et qu'un jour, je vais vous faire, oui, j'ai été élevé par des canards, j'ai compris qu'à 18 ans que c'était pas mes parents biologiques, enfin, tu vois vraiment, je vais être éclaté en sanglots. Non, mais chez les canards, ça fait partie des espèces monogames. Les canards, ils entendent Jean-Jacques Goldman chanter la ferme, et tout ça, ils font n'importe quoi. Il est que de la merde, celui-là. Je suis content qu'il soit barré, les enfoirés. Et vraiment, vous savez que, ils ont identifié les scientifiques 24 gènes qui pourraient expliquer les comportements monogames, mais je vais vous laisser Mathieu Vidard les expliquer mieux que moi.
Merci, merci Guillaume Guiz. France Inter,
Nagui, la bande originale. Musique dans la bande originale, Fatoumata Diawara, ça s'appelle Bonia.
Do you want me?
Bonilla de Fatoumata Diawara, Julie Gaillet et Lolita Chama sont nos invités. La musique est présente dans cette pièce Rabbit Hole, notamment avec Al Green. Mais vous savez que après...
Non, c'est pas celle-là, non, c'est mais celle-là, ouais. C'est Al Green.
C'est Al Green. Ah, c'est une autre chanson d'Al Green que
vous avez jouée. Ouais, c'est une autre, mais c'est pas grave, hein. Voilà, il y a des extraits, il y a des vidéos, c'est très cinématographique.
Voilà.
Aussi.
En tout cas, dans le texte, c'était cette chanson que j'avais
oui, que j'avais lu. C'est quand Patrick Catalifo, donc mon compagnon, ouais, a envie tout à coup de se rapprocher.
Voilà.
dans un couple, c'est leur voilà.
La chanson qui devrait exciter le couple à nouveau.
Ou qui leur rappelle
leur retrouvaille ou leur
amour. Ou...
Et alors quel titre jouez-vous sur cette
autre chanson? Mais...
Ouais, je sais pas.
Let's Stay Together.
Je sais pas ce qu'on a ce matin. Mais là ce matin, on est fatigué.
Excusez-moi. Êtes-vous Lolita Chama, Julie?
Anthony.
Non, on sait pas.
À quel point c'est un hologramme, on s'est moqué de moi.
Vous savez, on sait jamais vraiment qui on est.
Comme
donc
médiane.
On est en répète.
En tout cas,
la semaine prochaine.
La bande originale de vos vies, Julie et Lolita. On va commencer fin des années 80, début des années 90. Julie Gaillet, vous écoutiez Alain Bachung.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls. Il la remplisse de bonheur.
Elle est sublime cette chanson, Madame Rêve.
Madame Rêve.
Et de quoi rêvait-elle dans ces années 80?
De devenir comédienne, hein. C'était ça l'idée.
Et c'était pas forcément le chemin a priori qui était celui que vos parents envisageaient pour vous à l'époque?
Pas du tout le chemin familial, donc la seule comédienne, le petit canard noir, donc c'était un peu, voilà, ouais. C'était plutôt fait des études.
Et voilà que vous soyez majorette, c'est ça.
Non, faut dire quand même que vous venez d'une famille.
Non,
où
c'est
les...
pas rassurant, je pense que c'est pas rassurant pour une famille, avoir ouais. Sa fille qui arrive maintenant, j'aurais être comédienne.
Son papa, que j'ai la chance de connaître, est un immense spécialiste, un docteur.
Professeur de chirurgie digestive, et d'une famille de médecins, ouais. Une famille de, voilà, plutôt d'intellectuels et de...
Et de femmes aussi, surtout, qui ont...
Et de femmes, chirurgiennes, chercheuses. Donc sa grand-mère à lui, la grand-mère de mon père, mon arrière-grand-mère, faisait partie des toutes premières femmes qui ont été médecins. Elles étaient trois en 1910. Et à l'époque, elles ne pouvaient pas d'ailleurs être médecins, puisqu'on disait... Elles devaient voir les hommes nus. Oui. Et donc, son père lui a dit « Ah non, il n'y aura pas de pute dans la famille, ça ne se faisait pas. » Donc elle est devenue chercheur, comme Marie Curie, pour ne pas voir les hommes nus.
Et vous avez cassé cette filiation médicale. Vous avez
non, non, je suis arrivée en disant
bien, oui,
je veux voir des hommes nus.
Alors à mi-temps,
je veux voir des hommes nus.
Est-ce que vous avez eu ce sentiment de casser?
Non, là c'était... Mais peut-être de casser, ou en tout cas de me dire, pas avoir cette utilité. On a l'impression d'être comédien, de ne pas forcément être utile. Moi j'ai eu un moment
Que les médecins sauvent des vies, ouais.
Voilà, sauve les vies, avec l'impression d'une utilité et d'être... Mais voilà, la première fois que je suis rentrée dans un cours de théâtre, ça a été une révélation. Et je me suis dit que... Et c'est un peu ce qu'on vit, que je vivrais plein de métiers, que je ferais plein de métiers, et peut-être un jour chirurgien, digestif. Voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aller au bloc, aller voir les opérations.
Vous avez été aussi à l'école du cirque. Qu'est-ce que ça apporte, l'école du cirque? C'est utiliser l'espace, prendre conscience de son corps?
C'est apprendre à... Alors moi, j'étais fil de feriste, donc funambuliste. Wow. C'était cette idée de concentration extrême et d'être très détendu en même temps, de devoir arriver à un but. Fil de feriste, funambuliste, marcher sur un fil, être comme ça. Et c'est ce que j'aime dans les rôles. Alors moi, j'ai beaucoup de pudeur et toujours du mal à faire la promo, à parler de moi. Je me cache plus derrière les rôles. Je crois que c'est ce que je préfère.
Oui, mais quand on voit le parcours, c'est-à-dire étudier la comédie, école de cirque, du chant lyrique, on imagine que ce sont autant d'accessoires qui vous servent aujourd'hui à jouer.
Bah, tout sert. Oui. Même à être allé voir des opérations et accompagner mon père tous les week-ends à l'hôpital pour ceux qui n'avaient pas de visite, tout sert. Mais j'ai été curieuse, et en tout cas l'école du cirque, ce que j'aimais plus que tout, c'était le fait qu'on répète, qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qui est quand même très différent au cinéma. J'adorais cette ambiance d'arriver, le chapiteau, on monte le chapiteau, on prépare, on travaille. C'est un travail le métier d'acteur, on travaille comme des fous. Toi, tu as fait le conservatoire.
Bon, on va en parler justement.
T'as pas fait le conservatoire,
j'ai fait le TNS à Strasbourg.
On va en parler dans ces...
Mais voilà, moi j'avais cette sensation de devoir apprendre, chercher, être curieuse. Et le cirque, c'était voilà, une autre formation.
Vous écoutiez, vous, Lolita Chama, la chanson de Prévert.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne.
Et dans ces années-là, Lolita, c'est vos premières premières présences sur un plateau de cinéma, déguisé en chat, je ne sais pas. C'était
Chapol, non ?
Ouais, une affaire de femme.
Oui, ça, c'est c'était un hasard de la vie, on va dire, de ma vie, de me retrouver sur le film de Chabrol. Mais oui, c'est quand même un souvenir de cinéma et de vie très fort, une affaire de femme. Il y avait Marie Trintignant, il y avait François Cluzet, ouais. Il y avait ma mère, il y avait Dieppe.
Et qu'est-ce que cette chanson vous évoque ? Alors, si vous avez demandé, si vous la colliez à ce souvenir-là, est-ce que vous avez des images particulières en l'entendant ?
Après, la musique, ça, c'est toujours un peu des images aussi inconscientes, mais c'est une chanson très mélancolique de Gainsbourg, comme ça, et c'est vrai qu'elle m'évoque le souvenir, elle m'évoque le avant. Donc, voilà, elle m'évoque ce qui n'est plus, même si les souvenirs, c'est toujours là, mais...
Début des années 2000, Julie Gaillet, vous écoutiez Philippe Catherine.
J'adore.
Et voilà.
Luxor.
C'était compliqué d'être dans une loge avec moi à ce moment-là. Je mettais ça à fond dans la loge. Ouais.
Et vous enchaîniez à cette époque-là des films avec des... C'est des registres très très différents où vous changiez d'apparence. C'était vraiment des rôles... C'était une sorte de grand puzzle en fait.
Ben voilà, j'adore, c'est ce que j'adore. Ouais. C'est changer de tête, plonger dans des rôles, rencontrer des metteurs en scène qu'on ne me reconnaisse pas. Et d'ailleurs, on ne me reconnaissait pas parfois. J'avais fait une interview avec un journaliste, il m'a dit « Je suis désolée, j'ai vu aucun de vos films. » Et puis en fait, il en avait vu 5. Je jouais, je changeais, sans savoir.
Il avait bien bossé l'interview.
Oui, il avait bien bossé, il était. C'était drôle, mais...
Et finalement, est-ce que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une comédienne, ouais, alors qu'on pourrait dire...
Alors, moi, ça a été l'un des plus beaux compliments, et j'espère que... Mais alors après, c'est vrai que c'est peu français. Je me suis rendu compte avec le temps que le fait de grossir, maigrir, avoir les cheveux roses, blonds... Enfin, j'ai vraiment eu toutes les couleurs. Je suis passée par... faudrait que je fasse un jour une espèce de kaléidoscope de toutes têtes de cette époque. Mais j'arrêtais pas de tourner et de tout essayer, des premiers longs, des films difficiles. J'adorais ça et en même temps, mon agent de l'époque m'a dit mais Julie, on ne sait pas qui tu es. Et comme s'il y avait un besoin...
Il faut le mettre dans une case.
On voudrait savoir dans quelle case te mettre. Et je l'ai regardé, j'ai dit mais non, justement, je ne veux surtout pas et je ne suis pas très intéressante d'ailleurs. Et je me cachais vraiment derrière les rôles. Donc j'ai toujours eu du mal comme ça à imposer. Et puis alors avec le temps, comme Lolita, avec le temps, les choses se mettent en place avec le temps... On comprend peut-être tous ces choix.
Ouais, et vous racontiez dans les interviews que Mastroianni a été aussi un élément important dans votre carrière, de vous dire, en gros, fais ce qu'il te plaît, ne sois pas une diva.
Non, ça c'est Chagrin d'amour, ça fait ce qu'il te plaît.
ça a été une des très très belles rencontres que j'ai eu la chance de rencontrer Marcello Mastroianni, qui effectivement lui disait, quand j'ai commencé, c'était le théâtre, le grand art, donc ce que je suis en train de vivre là en ce moment, et c'est un bonheur incroyable. Mais le cinéma, c'était pas à son époque quand il a commencé, c'était vraiment mal considéré. Et tu vois, aujourd'hui le cinéma, et j'ai travaillé avec des amis, aujourd'hui on dit la télé, c'est pas grand chose, n'écoute personne, fais ce que tu veux. Et c'est vrai, il avait raison. Aujourd'hui, les séries sont bien plus populaires que le cinéma. Et donc, Marcello disait tout le temps, n'écoute personne. Écoute ton instinct, ton envie, les rencontres. Et il avait cette chose merveilleuse d'être humain.
Pardon, mais c'est surtout la qualité qui a le plus d'importance. Parce que les séries deviennent, entre guillemets, à la mode, parce qu'elles sont d'une qualité totalement différente de celles qu'il pouvait
y avoir
dans les années...
C'est une nouvelle écriture aussi, mais... je sais pas, à l'époque, il avait fait 170 films, et il me disait, j'ai fait 170 films. On se souvient de combien ? 25 ? 30 ? Donc, il en a fait des très bons films dont on ne se souvient plus de Marcello.
Oui, oui, mais on ne peut pas non plus comparer l'homme du Picardie avec Casa de Papel, quoi. Je veux dire, dans les séries aussi, ont évolué.
Mais quand on part dans un projet, et à l'époque, moi, je tournais beaucoup, il y avait des projets... on part dans un projet, on ne sait pas toujours où ça va et comment ça va se passer. Et c'est ça le...
Lolita Chama, vous écoutiez au début des années 2000.
rock.
Vous l'avez vu en concert?
Ah non, ça, pas du tout.
Mais vous êtes trop claustro pour aller au concert aussi?
Non, j'adore les concerts. Bah non, je vais au théâtre, je vais au concert. Non, non, ça, j'ai pas la claustrophobie de la scène.
Non, parce qu'on peut être, on oui, peut oui. être serré dans Après, la foule.
Je peux ressentir une petite panique si ouais. tout d'un coup il y avait trop de monde. Mais non, j'adore les concerts.
Prince Purple Rain, ça c'est les années 2000. Que se passe-t-il dans sa vie, Leïla?
Eh bien, c'est la vie moderne. C'est un peu votre vrai premier rôle au cinéma de Laurence Ferreira-Barbosa. Et vous racontez que vous êtes très agressé et très agressif sur ce tournage.
Non, bah, là vous le dites, je le dirais plus softement aujourd'hui, mais c'était le premier film que je faisais. Enfin, j'étais une adulte, j'avais 15 ans et c'est vrai que
au début, par rapport à la première expérience,
jeune adulte, oui. une adulte mineure, mais une adulte. J'ai été adulte très vite dans ma vie, grown up. Ouais. Et en même temps, pas du tout. Enfin bref, ça c'est un autre sujet.
Sinon, ça va. Mais...
non, c'est vrai que c'était pour moi quelque chose de nouveau et qui venait un peu dans ma vie comme ça, de façon intrusive. J'étais au lycée, au collège même, début du lycée, et j'avais l'impression que c'était pas ma vie encore de jouer dans des films. Et en même temps, rétrospectivement, c'était une expérience très forte, le film de Laurence, et c'est un film que j'aime beaucoup. Et voilà, mais c'était mon premier tournage comme actrice, et donc c'était particulier, sauvage.
Vous vous revoyez dans les films?
Celui-là, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais ça peut m'arriver de me revoir dans les films. Ouais.
C'est pas douloureux? Enfin, souvent, les comédiens et comédiennes disent que c'est douloureux.
De moins en moins. Parce que je pense que quand on avance dans ce métier, on prend quand même, heureusement, un peu de distance. Et j'arrive de plus en plus à me voir comme quelqu'un qui n'est pas moi aussi. Ouais. Heureusement, parce que sinon...
Les proches aussi, d'ailleurs, c'est bizarre. C'est... Ils mettent du temps à s'habituer à nous voir dans d'autres rôles.
Et vous avez eu beaucoup de femmes qui vous ont dirigé. Beaucoup
oui,
de réalisatrices
vrai,
vous
beaucoup.
Ont fait
Claire Denis,
tourner.
Claire Simon, Colline Serrault.
Laetitia Masson, Sophie Le Tourneur plus récemment, ouais. Élie Girard.
Et même Claudia Stavisky maintenant pour la
absolument.
Mise en scène au théâtre.
Et même au théâtre, j'ai fait beaucoup de spectacles avec des femmes. C'est un hasard, ouais. j'ai envie de dire... heureux ou pas.
Il n'y a pas, de différence notable dans le travail.
Si, je pense que le travail avec des femmes et avec des hommes est différent, mais au fond, moi, je choisis pas un projet parce que c'est dirigé par une femme ou par un homme. Je le choisis parce que quelque chose, il y a un souffle et il y a une intelligence et une rencontre avec quelqu'un qui fait que je vais faire un film ou une pièce de théâtre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, aussi avec des hommes, et j'espère que je ferai des projets maintenant avec des hommes aussi.
Ouais, mais c'est elle qui vous donne envie de réaliser, justement, puisque vous avez été attiré par ça.
Les femmes, vous
par la réalisation, oui, c'est de suivre leur exemple en disant femme peut diriger un plateau. Et...
Je vois ce que vous, enfin c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui. Il y a quand même toute une génération de femmes en ce moment de mon âge qui réalisent des films et je trouve qu'elles ont beaucoup de courage parce que il y a vraiment comme ça. Les femmes ont pris le pouvoir de quelque chose et c'est quelque chose d'assez fascinant, je trouve, parce que déjà faire un film c'est tellement difficile et ces jeunes femmes qui ont cette idée fixe et qui vont jusqu'au bout, c'est vrai que voilà, ça donne soi-même envie de réaliser des choses.
En quoi c'est plus courageux pour une femme que pour un homme de réaliser un film?
Je sais pas si c'est plus courageux, mais je pense que pendant longtemps, il y avait objectivement moins de femmes qui réalisaient des films. Mmh. Et voilà, maintenant l'équilibre commence à se faire, c'est courageux aussi pour un homme, vous avez raison, c'est pas forcément plus pour une femme.
Mais vous avez un point commun toutes les deux, vous êtes productrice, vous avez chacune monté une société de production.
Plus Julie que moi je me suis associée
avec Raphaël Persona.
Ah oui, vous savez tout.
Ben oui.
Non, ça c'était il y a très longtemps. Oui, j'avais monté une petite boîte de production avec Raphaël Personnaz.
Voilà, c'était pas pour faire de l'huile d'olive en Grèce, hein, c'était pour faire des films
c'était
en France.
C'était pour produire deux courts-métrages, un que lui avait fait et un que moi j'avais fait.
Ah voilà. D'accord, ok, mais ok. Et Rouge moi. Rouge existe toujours, c'est Rouge
Ah oui, ça existe toujours, plus que jamais.
Plus que
même.
Jamais.
On l'a monté en 2007. Voilà, c'est une société de production où justement, alors j'ai fait le choix de ne pas jouer dans les films que je produis pour que ce soit bien clair que je produis. On a coproduit un documentaire, produit aussi un documentaire sur Mandela qui s'appelle Le procès contre Mandela et les autres. Mmh. Voilà, qui était en salle. On distribue maintenant aussi, donc c'est vraiment une passion.
Vous avez posé le produit de superbes films, Grave, de Julia Ducournau, c'est un superbe film, on parlait de l'insulte, mais vraiment, c'est un beau catalogue, maintenant.
Mais c'est dans la... Alors, cette époque où j'ai beaucoup tourné, où je faisais, en fait, comme comédienne, un peu ce que j'aurais aimé faire comme productrice, c'était mettre en avant des metteurs en scène ou des metteurs en scène, des femmes, hommes-femmes. À un moment donné, justement, au lieu de m'excuser ou de me cacher, là, je me suis dit, ça... Pour le coup, suivre. J'ai monté une société de production. Je vais assumer. Je vais dire voilà, ça c'est mon choix. C'est ce que je suis, ce que j'aime, le cinéma que j'aime.
Et donc pas la réalisation internationale. Et là, vous n'avez pas envie de diriger.
Alors j'ai une grande admiration pour les metteurs en scène, les accompagner. Et je pense qu'il faut avoir un univers. Si je suis interprète comme comédienne, c'est parce que je plonge dans l'univers d'un metteur en scène. Et productrice, j'accompagne un metteur en scène. Donc ce que j'aime, c'est les auteurs, les metteurs en scène. Et moi, je me sens vraiment à la fois interprète, l'outil pour un metteur en scène. Et là, Claudia Stavisky qui nous a mis en scène un texte, David Lindsay-Haber, au théâtre. Et comme productrice, c'est la même chose, c'est la même démarche. Je suis l'œil extérieur du metteur en scène. J'essaie de trouver la justesse, la cohérence.
Vous n'avez pas envie de vous de réaliser ?
Non.
Pas tout de suite.
J'ai juste réalisé un documentaire sur la question des femmes dans le cinéma. Voilà, justement, puisque vous parliez de ça.
D'accord.
Il y a 27% seulement de réalisatrices aujourd'hui. En France, c'est pas 50%, alors qu'il y a 50%, c'est 50-50 dans les écoles. Pourquoi il y a 27% seulement après ? Et on est le pays où il y a le plus de réalisatrices au monde.
Oui.
C'est-à-dire que sinon, dans le reste du monde, c'est 10%, 3%. Parfois, elles sont une. Ouais. En Corée, il y a une fille. Au Japon, elles sont trois. Donc, j'ai fait un documentaire sur cette question-là. Ça m'intéresse effectivement, la question des femmes, de ce qui se passe en ce moment, et il y a à faire. Donc ça, j'en ai fait un documentaire.
La pièce s'appelle Rabbit Hole, et nous avons donc demandé à Pascal Neveu, bonjour Pascal, merci de revenir à ce micro, pour nous parler. Donc, vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, pardon. Vous avez écrit en 2014 un livre aux éditions Solar qui s'appelait Revivre même quand on est terrassé. Justement, comment vivre un drame auquel on n'est pas préparé ? Quel que soit, d'abord, on n'est jamais préparé réellement à un drame, mais comment faire ce travail de résilience puisqu'on a
perdu des enfants.
Oui, en plus, on parle des enfants et effectivement, le deuil d'un enfant est quelque chose qui nous apparaît comme hors norme parce que effectivement, normalement, ce sont les personnes âgées qui doivent décéder. En tout cas, dans la façon dont nous anticipons et dont nous vivons effectivement les deuils progressifs à travers notre culture. Et la pièce montre très bien effectivement tous les aspects à la fois singuliers de la gestion du deuil chez la femme et également chez le père, parce que on occulte très souvent la difficulté d'un père à vivre ce deuil. C'est un cas de suicide, mais extrêmement important d'ailleurs chez les hommes, parce qu'ils ne véhiculent pas, ils ne disent pas réellement leurs émotions par rapport à ce travail de deuil. Et cette pièce est réellement mais exemplaire sur tout ce qui est mécanisme de défense, sur tout ce qui est projection par rapport à ces deuils et la façon dont on le vit de manière singulière. Alors ensuite, effectivement, alors je vais pas rentrer dans une explication mais psychanalytique de ce qui se passe, mais entre à la fois l'annonce, la gestion dépressive d'un deuil, la façon dont on le vit, la façon dont on revit effectivement ces moments de vie en se disant à un moment donné ça n'existera plus et comment on peut transcender tout cela et alors être justement, dans une capacité de résilience.
Quelle est la frontière entre faire son deuil, pour reprendre l'expression, et
c'est compliqué,
et éviter l'oubli, parce que c'est aussi l'une des craintes. On ne veut pas oublier.
Je crois que c'est un des plus beaux passages de la pièce. Hein, c'est la mère qui explique et qui raconte.
Totalement.
Qu'on vit avec et comment on le porte sur soi comme un manteau. C'est un des plus beaux passages.
C'est-à-dire ce qui se passe effectivement sur un plan psychique et qui passe.
Ça disparaît, ça revient sans qu'on s'y attende. Enfin, c'est très, très
c'est
beau.
C'est ça, mais totalement, ça revient de manière lancinante. Mmh. Et comment, à un moment donné, on passe du psychisme à un moment de cœur en se disant, bah voilà, j'ai vécu ces moments qui ont été hyper joyeux, qui ont été parfois, mais plus douloureux également. Comment je fais avec ma culpabilité également? Et ça, c'est très bien démontré dans cette pièce. Enfin, la pièce est absolument fabuleuse. Il faut absolument y aller. Hein.
C'est fabuleux. Faut pas vous
il
louper,
le vend
Julie,
beaucoup mieux
hein,
que nous. Je trouve qu'il est bien meilleur. Vous auriez dû venir dès le début de l'émission.
Mais elle démontre très bien cette pièce, réellement, tout ce qui est l'épreuve les épreuves du travail d'un
oui,
deuil.
Parce qu'il y a tous les, il y a tous les prismes. Il y a aussi bien la sœur, il y a évidemment ce qui se passe dans le couple, il y a la sœur, il y a le regard de la mère, il y a les amis, il y a aussi le fait de se dire, est-ce que on va retrouver des amis qui eux ont des enfants et qu'est-ce qui va se passer? On va parler à nouveau de leurs enfants. Eux, ils vont être gênés de dire mes enfants vont bien parce qu'ils savent bien que nous, on n'a plus le nôtre. En plus, il y a qu'un enfant.
Et c'est bien la problématique. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous êtes endeuillé, justement, le regard de l'autre, il est extrêmement important et qui fait qu'il y a un isolement, mais
oui,
complet. À ce moment-là, vous avez
quasiment,
mais 75% des personnes qui vont être, bloquées, à un moment donné, au niveau de leur relation, sociale, amicale, etc. Et pouvoir, simplement mettre en relation avec quelqu'un qui est endeuillé, pour différentes façons. C'est simplement, lui laisser, la parole, être dans une écoute, mais totalement passive, ou en tout cas plutôt active, etc.
Mais alors, quel est le conseil du psy, justement? Il faut parler.
Allez voir la pièce.
Ça, j'ai entendu.
Voilà,
c'est bien dit.
Il faut parler. Moi, je dis souvent une chose.
Il faut laisser écouter.
Ayant malheureusement trop vécu, on vit toujours trop de deuil dans sa vie, mais que ce soit des amis, des proches, des membres de la famille. Voilà. Il faut continuer de citer, de dire les prénoms.
Dire le nom. Parce que sinon, la personne n'existe pas. Effectivement, dans son existence. Donc, il faut nommer le mort, comme je le dis, à un certain moment, etc.
Et libérer la
parole.
C'est ça aussi la pièce. C'est
totalement
des gens qui se parlent finalement.
C'est ça. On le dit parfois, peut-être de manière maladroite. Mmh. On le dit de manière très juste également. Mais en tout cas, nommer le mort est le plus
pas
important.
Non, hein. Mais Pascal, lorsqu'un couple, et je veux pas déflorer ce qui se passe dans la pièce, mais lorsqu'un couple se pose la question de savoir, par exemple, ils perdent un enfant, de savoir est-ce que on défait entre guillemets la chambre, on la transforme en chambre d'amis ou est-ce qu'on la garde en chambre d'enfant, voilà. Comment la chambre ne doit pas devenir un mausolée d'un côté et comment de l'autre on se dit on détruit l'univers dans lequel il était comme si...
Freud disait à un moment donné le plus douloureux c'est qu'il faut tuer le mort. C'est-à-dire cet acte psychique, effectivement, d'enterrer, de donner un coup de pelle, effectivement, sur la personne qui est décédée et de pouvoir l'enterrer. C'est extrêmement compliqué. J'ai accompagné bon nombre de familles qui, à un moment donné... J'ai accompagné bon nombre de familles qui, effectivement, étaient là, se sont reconstruites. Par la suite, on refait des enfants. Il y a eu un cas très médiatique, etc., où cette famille, et je leur ai rendu hommage dans un de mes ouvrages, ont perdu deux de leurs enfants. Ils ont refait une petite fille qui s'appelle Rose, comme par hasard, etc., et ils se sont révélés de nouveau. Ils ont reconstruit effectivement leur couple à travers cette histoire. Alors bien évidemment, est-ce que il y aura une charge sur cet enfant? J'en suis pas forcément convaincu, parce qu'ils m'ont dit également, à un moment donné, peut-être que elle atteindra cet âge où nos enfants sont décédés, il y aura cette malédiction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'aura pas dit à cet enfant. Et justement,
c'est ce qu'on retrouve aussi dans la pièce. Ouais.
Totalement, je fais exprès. Et donc, mais justement, qu'est-ce qu'on doit dire? Comment on doit raconter les choses, mais simplement, se révéler à soi-même et dire effectivement ce qui est simplement de la vie, parce qu'on sait tous qu'on va mourir un jour.
Ah bon? Oui. Mais le plus tard possible, s'il vous plaît.
Oui,
Merci Pascal Neveu. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Les guépards sont menacés par Instagram.
Oui, Instagram, c'est cette appli qui permet de mettre 60 filtres sur soi pour faire croire à tout le monde qu'on est mieux que les guédipiges alors qu'on a la face qui moisit. Et la nouvelle mode sur Instagram pour certains, c'est de poser avec des guépards. Du coup, ils sont braconnés et disparaissent. C'est
très fou. On en reparle après les infos de midi.
Par où commencer? Tu m'as fait perdre le fil de ma pensée. Mes rêves ne cessent de me hanter. Tu es le secret que j'ai gardé. Il suffisait d'y croire. Nous aurions pu courir le monde comme deux âmes vagabondes. Tu es ma lumière dans le noir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donne raison. On fera comme si de rien n'était. On fera comme si de rien n'était.
Paris que je pars. Encore un autre coup de tête. Oh, c'est un rêve éphémère dont seul toi tiens les rênes. Il suffisait d'y croire. J'entends le château qui s'effondre, abandonné sous les décombres. Pour toi, ce n'est qu'un au revoir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps. Mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus les questions.
Merci de nous rejoindre, si c'est le cas. La bande originale s'est repartie jusqu'à 12h30. Elle triomphe en ce moment sur les planches des bouffes parisiens. Julie Gayet et Lolita Chama sont nos invités. De retour sur scène, alors vous l'avez suffisamment dit pour que là maintenant on vous interroge dessus. Moi je voulais pas vous attaquer, Julie Gayet, sur « Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de théâtre, Lolita Chama, ça fait plein de fois qu'elle a fait du théâtre et pas vous, et pourquoi vous avez tant attendu ?» Mais bon, allons-y.
Et il y va quand même.
Ça fait 20 ans, oui, 21 ans même. Bah, alors j'ai eu des petits, des garçons, qui ont 18-19, donc voilà, c'était...
Vous avez des enfants de 18 et 19
et
ans,
voilà, ouais.
Mais comment vous
qui
les faites
avoir
pas
19-20 là.
Vous ne les faites pas.
Si.
Vous ne les faites pas.
Et puis après j'ai produit, j'ai monté une boîte de production pour toutes ces raisons.
Mais
et
est-ce
après
qu'il y a
on
a
peur.
Y a eu quand même. Est-ce qu'il y a eu des voilà ce que j'allais dire.
Après
a,
j'ai eu peur.
Il y a eu des propositions faites.
Il y a eu des propositions donc voilà les premières années les enfants donc ça c'était évident et quand on m'a commencé à me proposer des projets là je disais oui et puis non finalement je parce que c'est vrai qu'après 15 ans c'était difficile de repartir et il a fallu Claudia Stavisky il y avait elle une Argentine à Lyon qui a pris un TGV qui est venue mais maintenant c'est maintenant et qui m'a pas lâché la main et qui m'a convaincue et aussi évidemment un texte je trouve hyper moderne que Suzanne Sarandon dans laquelle jouait Suzanne Sarandon et des partenaires, je me retourne vers Lolita. Non mais vraiment, Patrick Catalifo, Lolita m'ont tenu la main et on est parti, on a sauté, j'ai eu l'impression de sauter dans le vide.
Ça demandait un travail préparatoire spécifique ou pas tout d'un coup de retrouver les planches, de se dire est-ce que j'ai besoin de réapprendre, est-ce que j'ai...
Alors j'ai beaucoup erré dans Lyon en pleurant, je vais jamais y arriver. parce que malgré tout, oui, c'est une technique différente, c'est-à-dire qu'il faut projeter. Ouais. C'est une grande salle, il faut toucher tout là-haut. Paris, donc je me disais, donc je faisais des abdos, en me disant le ventre, les abdos, un peu comme le chant, quoi, vraiment de reprendre la colonne d'air du chant.
Exactement.
Et pour avoir fait du chant,
ça aide.
Donc je faisais ça. Mais vraiment, jusqu'à la veille, et là, Lolita a été hyper courageuse, Patrick, et je le redis, autour de moi, parce que...
Enfin, c'était... j'ai très très peur aussi, je vous rassure. Parce que vous me faites passer pour... j'ai fait plusieurs spectacles, mais j'ai quand même très peur.
Et quel est votre plaisir d'être au théâtre? C'est charnel? C'est quoi? C'est le contact plaisir, avec les planches? Il y a l'odeur du théâtre? Enfin, qu'est-ce vous aimez?
Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu un peu une partie de ma vie dans des théâtres, que ce soit dans les coulisses ou sur la scène, mais j'ai un rapport à la scène très fort et très intense, et pour moi,
c'est une porte qui s'est ouverte.
Je pourrais pas ne pas faire de théâtre.
Et comment gérer
adoré ça.
Et comment gérer le quotidien, parce que
c'est dur.
Il y a des jours où on a plus ou moins bien dormi, on est plus ou moins en forme, on a plus ou moins la voix.
C'est comme un sacerdoce le théâtre. C'est vrai qu'on a l'impression que tout s'arrête et que quelque chose est que concentré vers le soir et faire le fait de jouer. Après, ça dépend. Chacun le vit différemment, mais
moi,
il y a quelque chose de...
Moi, j'ai une boîte de prod, Rouge International, ils sont tous très contents parce qu'ils vont me voir tous les jours au bureau, alors que d'habitude, je bouge, je fais mille choses. Là, je vais être tous les jours au bureau, tous les soirs au théâtre. C'est merveilleux.
Donc, c'est la rigueur, en fait.
C'est la rigueur.
C'est la rigueur. Et c'est la rigueur qui passe aussi par l'hygiène de vie.
Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, il faut
faire attention à ce qu'on mange, aux heures de sommeil,
Oui, après, il faut pas non plus trop compter. Il faut vivre un peu follement, sinon on s'ennuie.
Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on s'amuse aussi? Parce que au Célestin, il faut quand même le préciser. Je ne l'ai pas dit, pardon, depuis le début de cette émission. C'était un énorme succès, cette pièce. Est-ce que lorsque l'on vit un succès au théâtre, déjà, évidemment, j'imagine qu'on y va avec un entrain bien particulier, mais est-ce qu'on s'aventure à tester des choses différentes dans les intentions, dans le jeu, dans la mise en scène, ou est-ce qu'au contraire, on se dit, ça a fonctionné, on va pas bouger d'un poil?
Ben là, on a d'abord beaucoup de chance. Il y a Christiane Coendi, il y a une nouvelle comédienne qui est rentrée. C'était Manu Garcia, l'année dernière, qui était là avec nous l'année dernière. Et c'est surtout le fait de le reprendre. C'est comme si, en souterrain, alors ça, je connaissais pas du tout. Moi, j'avais pas fait de reprise comme ça un an après. Le texte avait travaillé. Et comme tu disais tout à l'heure, Lolita, on l'a retrouvé, on a redécouvert des choses. Et puis aussi, vraiment, alors là, l'envie de s'amuser, de chercher d'autres choses. Donc, on a pu faire ça. Et maintenant, tous les soirs, c'est différent puisque vous êtes différents tous les soirs.
C'est ça, ça s'appelle Rabbit Hole au Théâtre des Bouffes Parisiens. Lolita Chama et Julie Gaillet sont nos invités jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastur. Les guépards sont des animaux majestueux.
Oui, Nagui, ils ont un pelage fauve, tacheté de noir, comme les slips de bain des vieilles dames qui font du Munichini à Nice, sur lesquels ils ont totalement copié leur look. Et le guépard est rapide, en 3 secondes, il monte à 90 km/h, sauf en France à 80, à cause d'Edouard Philippe. En 2009, Sarah, guépard femelle du zoo de Cincinnati aux États-Unis, a parcouru le 100 mètres en 6 secondes et 13 centièmes. Au bout de la piste, l'attendait Nelson Montfort, qui lui a dit grrrr, puisqu'il parle l'anglais, l'espagnol, l'italien, le croate, le ribéry, qui consiste à pas pouvoir s'exprimer parce qu'on a de l'or plein la gueule, et le guépard. C'est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Il a donc besoin d'espace, de liberté, de nature, tel le Zadis dévoré par les poux, ou Mike Horn dans les émissions de télé quand il fait pipi sur Amel Bent afin de la soulager d'une morsure de crotal.
Non.
Mais malheureusement, l'homme, cet absurde prédateur dont le but ultime est de défoncer tout ce qui vit autour de lui, extermine le guépard. Il n'en reste plus que 7100, moins que de gens qui ont connu Régine Pimpante. Donc là, on imagine que les bêtes se font buter dans la savane par des cons qui, en voyant le facochère dans le Roi Lion, se disent « purée, ça doit être bon sur le grill avec une béarnaise, cette saloperie ». Eh ben, pas du tout. C'est à cause de la domestication de l'espèce que le guépard s'éteint. Parce que les gonzes du Golfe, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite, hein, ces endroits magiques où quand vous enterrez votre chihuahua dans le jardin, il y a du pétrole qui gicle et 3 minutes plus tard, vous êtes tellement riche que vous pouvez vous payer 2 cafés en terrasse à Paris, les types achètent des guépards. Nous, quand on veut de la compagnie, on prend un chat, ces petites bêtes qui nous méprisent au point de se lécher Louis-Louis pendant qu'on mange. Mais là-bas, la flambe, c'est un sport, tout est plus grand. À la place d'un chat, ils ont un guépard. Leur Fiat Punto, ce sont des Ferrari. Leur F3, des F30. Si vous leur proposez d'échanger leur gosse de 8 piges contre Teddy Riner, qui fait 135 fois la corpulence du môme, ils disent banco et vous filent le gamin. Tandis que le petit hurle, non, papa, mets des stéroïdes dans mon Benko, moi aussi dans 4 mois, je suis gaulé comme Booba. 300 guépards chaque année sont ainsi prélevés en Afrique par des braconneurs, pour être vendus dans le Golfe, alors qu'il en reste 7000 en tout. Donc c'est comme si on déboulait au siège du PS et qu'on chopait le dernier militant en l'attirant avec une photo de Léon Blum placée au centre d'une grande tapette à Ragondin. Et tout ça pour que des abrutis posent avec sur Instagram. Parce que le journal Le Monde, hein, qui a enquêté, le dit, le but des gens qui ont des guépards, c'est de les mettre à côté de leur femme sur le lit, prendre une photo et partir à la chasse aux likes. Or, vous avec un chien, c'est 30 likes, vous avec Nagui, malgré un look moindre, 70 likes, mais vous avec un guépard, c'est 3000 likes.
Alors le problème, c'est que justement les gens sont prêts à tout pour avoir une reconnaissance.
Mais bien sûr, on cherche tous à se faire remarquer. Quand j'étais jeune, du temps d'Elsie Waikiki, Chevignon et Michel Noir, j'avais un pote qui avait un rat, hein, il avait 30 ans d'avance sur Anne Hidalgo. Et ben il avait juste envie qu'on le remarque, parce que le rat, comme le jaguar, est un animal de compagnie à la con. Vous faites un plateau de fromage devant BFM pour voir si l'écharpe de Christophe Barbier est toujours aussi soyeuse après 7000 lavages à 30, le
temps d'aller chercher le coude rouge pour accompagner, le rat a tout graillé. Parce que c'est un animal égoïste. Jamais un rat n'a ouvert une cagnotte litchi pour financer l'opération d'un enfant malade. Le guépard, c'est pareil. À peine vous avez le dos tourné, il a bouffé la moitié de mamie Hortense qui chillait sur le canapé en rêvant qu'elle était en train de se taper Laurent Romeshko. Il ne sert à rien dans une maison. En plus, le guépard est le seul félin à avoir des griffes non rétractiles. Elle reste en place. Vous pouvez même pas le checker s'il marque un panier au basket. C'est impossible d'avoir une complicité avec un animal pareil. C'est donc nous qui avons le pouvoir de stopper ce massacre en arrêtant de plébisciter les photos de ces crétins avec des guépards. Parce que si la photo de la bête a zéro like, plus personne ne voudra en avoir un. Regardez Benoît Hamon. Sur son Instagram, il met une photo de son ficus. Ça fait 40 000 likes. Une de lui, 3. Du coup, maintenant, c'est la plante qu'on met sur scène dans les meetings. Nos likes, les petits cœurs qu'on met ou qu'on met pas, c'est ça qui détermine l'avenir des comportements des autres. Votre nièce de 12 ans en mini-short qui secoue son boule sur Insta en léchant un sextoy et l'effigie de Nick Jonas. Vous arrêtez de liker ça, direct elle reprend son pouce en lisant Martine sniff de la colle à Tourcoing. Donald Trump qui ne tourne qu'au like si les gens arrêtent de foutre un cœur dès qu'il parle de son mur, dont la construction n'a toujours pas débuté. Hein, si tout le monde faisait comme lui, Bricorama serait en faillite. Et bah son monde s'effondre. Kardashian qui passe sa vie à exhiber son huc, on arrête de la liker, elle se retourne et monte ses seins. Ça changera parce que là c'est une monotonie. On a l'impression de voir toute la collection de Jumbe de Zaz qu'elle aurait roulé dans du tissu moulant. On est saturé d'images plus vaines les unes que les autres. Mais si plus personne ne met de pouce sur Facebook à la collection de photos de ta tante qui s'intitule Vacances 2018 au Cap d'Agde, soirée interraciale, dans les 10 minutes, Tati appelle l'abbaye de Sénang pour passer le casting de nonne. De la même manière qu'on peut influer sur le business par le biais de nos achats, ben on peut montrer à ceux qui achètent des animaux sauvages juste pour exister que non, ils n'existent pas plus et vive les guépards libres, tiens.
Merci Sandy Pichot.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale sur France Inter et vous serez encore mieux avec Saying Goodbye de J.S. Ondara.
Getting good at saying goodbye. Oh, honey, I'm just getting
cette pièce Rabbit Hole, qui est un clin d'œil fait à ces univers parallèles. C'est même carrément la baseline hein, du titre, pour que l'on comprenne bien. Si je peux me permettre, moi j'ai pas vu la nécessité de la réflexion sur les univers parallèles. J'ai aimé la pièce et la manière dont chaque personnage vivait sa vie, sa folie, son déni, sa peine, sa vie en particulier. La notion d'univers parallèle, c'est un alibi final, non? C'est
non, mais c'est
Lolita.
Je ne sais pas si c'est un alibi final. Je crois que c'est plus que ça quand même. C'est quand même
Albert. Non, mais dis-moi ce que tu as pensé, Tom.
C'est aussi le centre de tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire, c'est ces personnages qui sont dans leur quotidien, dans une vie concrète, et il y a cet aspect beaucoup plus abstrait et un peu plus mystique.
C'est la chambre verte.
Et
même avant ça, l'univers parallèle. Ouais, c'est là où se trouvent les gens qu'on a aimés et qui ne peuvent jamais mourir. C'est pour ça. Une fois ici, il y avait un comédien qui avait dit très justement, je ne me souviens plus qui c'était, que faire son deuil, ça voulait rien dire, parce qu'on ne finit jamais un deuil.
C'est
Philippe Delerme. Il disait très justement.
Il avance avec nous, mais
pas par provocation, mais pour dire que on vit avec ces personnes disparues sans masochisme, mais on ne les oublie jamais, même si la vie continue. C'est banal ce que je dis.
Et puis les univers parallèles, c'est aussi
ce monde imaginaire qu'elle elle a besoin de ça, cet imaginaire-là, cette chambre verte.
Et puis c'est aussi les univers de chacun des personnages par rapport au deuil, parce que finalement, tout le monde ne le vit pas de la même manière, tout le monde ne l'envisage pas de la même manière. Donc avant même la résolution finale, il y a déjà des univers parallèles qui se côtoient, qui peinent parfois à converser.
Comment se retrouver
Et alors, cette pièce, lorsque vous l'avez lue, vous avez toutes les deux ressenti sa dimension comique ou pas?
Alors moi je l'ai lu en anglais d'abord et je l'ai vraiment ressenti ce rythme, donc cette écriture anglo-saxonne, et toute la difficulté, on en parlait tout à l'heure, c'est de la traduction, c'est la première fois qu'elle est traduite en français, et de trouver nous cette énergie à l'américaine. Alors, on a des noms, c'est aussi pour ça que sur les prénoms on a un peu du mal, mais c'est donc Becky, moi, Izzy, toi,
Izzy pouvant être Isabelle, un diminutif d'Isabelle.
Isabelle.
C'est ça,
Becky. Mais voilà, donc écriture américaine et très moderne. Et donc voilà, comme moi j'ai pu travailler des contemporains américains.
Et vous, Lolita, vous étiez rendu compte que votre personnage était aussi...
Je crois qu'il ne faut jamais trop se rendre compte de ce qu'est un personnage qu'on va jouer. Donc j'ai... Mais déjanté, bien sûr, drôle, je ne sais pas. Ça, c'est...
Ah oui, clairement.
Oui, clairement. Mais je pense à fleur de peau, c'est-à-dire... Enfin, voilà, comme une petite fille qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de parler fort, de montrer ce qu'elle est et tout ça. Voilà, après, ce qui est drôle au théâtre, je crois que c'est aussi, c'est pas forcément ce qu'on croit.
Elle est dingue sur scène, elle est complètement folle. Elle est géniale, absolument.
Mais vous aimez, vous aimez ça, Lolita. Vous aimez faire rire aussi.
Je crois.
Je vous confirme.
Malgré moi.
Je vous confirme.
Je suis pas forcément très drôle dans la vie, Nagui.
Si, ouais, la preuve, voyez, même quand vous le dites, c'est drôle.
C'est ça qu'on aime.
Voilà. C'est toute la différence avec Daniel Morin.
Allez, coup de chapeau! Coup de chapeau à France 3 et aux équipes de Plus Belle la Vie. Eh oui, les amis, c'est une belle leçon de rebondissement, voire de recyclage, qui nous est proposée. Pour donner un petit coup de fouet à la saga provençale, les auteurs font revenir deux personnages. Pas con. Sacha et Victoire. Le coup de génie, c'est que les deux personnages avaient disparu pour une raison qui, habituellement, empêche de faire un comeback. Cette raison, c'est la mort. Eh ben non, dans Plus Belle la Vie, rien à foutre. Petit rappel, Sacha était quand même mort dans un accident d'avion et Victoire s'était suicidée. Eh ben non, il n'était pas mort. Bientôt dans Plus Belle la Vie, le retour aussi incroyable que chelou de deux personnages légendaires de la série, Sacha et Victoire. Tout le monde croyait que Sacha, après s'être craché en avion et avoir eu son corps disloqué en petits bouts, serait indisponible pour la vie. Eh ben non. On aurait pu croire que Victoire, après s'être donné la mort, aurait été indésirable au royaume des gens qui bougent. Eh ben non. Mais comment quoi alors? Eh ben figurez-vous que... En réalité, ils étaient tous les deux cachés. Cachés? Mais où ça? Eh ben sur une île déserte. Cachés sur une île déserte? Mais pourquoi? Eh ben pour échapper à la justice. Oh, trop bien vu les gars. En même temps, on n'est pas à l'abri que la formule séduise ailleurs. France Inter Flasheuse spéciale, on vient de l'apprendre, coup de théâtre politique et possible grand retour, on le croyait mort, rattrapé par ses électeurs décédés, mais en fait non, l'ancien maire de Paris, Jean Tiberi, est bien vivant, il est même candidat pour les élections municipales de l'année prochaine, mais où était-il tout ce temps?
Eh bien, il était sur une île déserte. Mais que faisait-il sur une île déserte? Il était planqué pour échapper à la justice. On va peut-être même assister à une déferlante de retours improbables. Europe 1, à suivre 6h, 22h, Jean-Marc Morandini, 16h d'antenne non-stop pour sauver la station. On le croyait mort depuis 3 ans, mais en fait non, Jean-Marc était parti se cacher sur une île déserte. Mais pourquoi parti sur une île déserte? Eh bien, pour échapper à la justice. Et en parlant de personnes décédées, quid du retour de Bouvard aux grosses têtes d'RTL ou de Jean Rocas sur TF1? Eh ben, c'est possible. On m'a dit qu'en fait, il n'était pas vraiment mort. Ah, à demain.
Merci. France Inter, la bande originale. Avec
Maggie. Tu sais qu'il y a toute une théorie aux États-Unis où ils disent qu'Elvis Presley n'est pas mort, ouais. Il vit sur une île paradisiaque.
Et Claude François est en Amazonie, vous
savez. Isolé.
Avec Freddie Mercury.
Et il va faire des bœufs. Ouais. Incroyable.
Des
bœufs. Des bœufs, on dit. Rabbit Hole, David Lindsay Hubbert, qui est un auteur prolifique. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Ce prix Pulitzer dont vous parliez aux États-Unis, ouais. Il est régulièrement joué, y compris transformé au cinéma. Ce qui est le cas de Rabbit Hole, oui.
Ça avait été incarné par Nicole Kidman, ouais. Dans Le feu sous la glace de Nicole Kidman, la belle Nicole Kidman.
Et dans ce cas-là, on revoit justement les versions précédentes pour travailler.
Alors moi, je déteste ça. Même j'avais joué dans Les Rois maudits, j'avais eu cette chance, et j'avais pas voulu revoir Les Rois maudits que j'avais vu il y a très longtemps. Je pense qu'il vaut mieux pas revoir, donc je reverrai après la pièce.
Qu'a apporté Claudia Stavisky, à part vous convaincre déjà de venir au Célestin et de travailler, quelle est l'importance de la mise en scène?
Bah, c'est la metteur en scène, c'est elle qui nous a réunis, c'est elle qui nous donne cette énergie, qui a son point de vue. Et sur la mise en scène, elle a voulu mettre des vidéos, faire tout un travail très très intéressant et cinématographique avec
et
un décor
aussi,
magnifique, ouais. Qui va petit à petit se dénuder, évoluer. On va dire, évoluer. Donc vous verrez, voilà, très contemporain. Mais ça peut commencer comme un film de cinéma, d'où l'intérêt aussi d'attaquer sur la pièce. Et puis ça part comme une sitcom presque aussi, hein. Plus belle la vie.
Ouais.
Ça part comme ça,
comme
ça commence
une série,
comme ça.
Enfin, c'est des personnages,
ouais,
comme
de
je disais
série
tout
américaine.
À l'heure aussi,
et puis
très précis comme ça.
On s'amuse et on part, et voilà, et à la fin, tout est épuré, on est mis à nu.
Est-ce qu'on peut proposer...
Pas physiquement,
non. Il fallait pas continuer la phrase. Tout le monde se serait précipité encore plus.
Le théâtre, c'est une mise à nu.
Est-ce qu'on propose des choses, Lolita, quand on est comédienne? Est-ce qu'on propose des tenues vestimentaires? Est-ce qu'on propose un tic de langage, une voix, un geste?
Un déguisement.
On propose...
Un déguisement en chat.
On propose qu'on ait déjà ce qui est déjà beaucoup, quelque part. Enfin, un personnage, au fond, c'est quand même seulement soi-même. Donc si ça avait été une autre actrice, le personnage aurait été tout autre. Et c'est aussi ça, le théâtre, c'est des personnes qui arrivent sur une scène et qui forment un groupe et qui créent quelque chose ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux au théâtre. C'est une rencontre d'êtres humains qui créent cette... Et nous, on s'est rencontrés et ça crée cette famille. Et ça crée cette pièce, du coup.
Et ça va se jouer dans un très beau théâtre. Hein. Bouffe parisien, on le dit pas assez, mais c'est l'un des plus beaux théâtres parisiens.
C'est le théâtre de Brialy. Moi, j'avais connu Brialy là-bas, au Bouffe parisien, près de l'Opéra.
Donc, bien sûr, on propose...
Et je crois que c'est la famille Offenbach qui était au Bouffe parisien.
Ouais.
Je crois qu'ils sont même encore propriétaires des...
Monsieur qui dit oui dans le public. Donc, c'est confirmé.
C'est monsieur Offenbach lui-même.
Et on parle des personnages qui collent à la peau, souvent, au cours d'un tournage. Là, la répétition des représentations, est-ce qu'on part un peu avec son personnage ou alors c'est une sorte de théorie un peu fumeuse qu'on peut tenir sur les comédiens et les comédiennes?
Ça dépend de chacun.
Ouais. Et pour vous, alors?
Tu vois, en cœur. Moi, j'ai plutôt tendance à le laisser derrière la porte. Je rentre, je ressors d'un personnage et vraiment, je fais ce travail et que j'aime beaucoup faire. Parfois, il me manque, les personnages, et là, c'est très agréable de pouvoir la retrouver, de le replonger.
Comme ça doit être agréable de la laisser aussi dans
sa loge. Et c'est très
agréable
aussi de la laisser dans la loge.
Alors que Lolita aime bien donner encore des coups de boule dans des bars.
Non, pas du tout. Je suis beaucoup plus sage.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour tous les enfants qui nous écoutent et qui, sur le modèle de Lolita Chama, vont demander à leurs parents d'aller à l'école en chat. Alors, c'est vrai, ça peut être relou, mais vous savez, tous les jours, Nagui vient au bureau avec le comportement d'un bonobo et ça ne choque vraiment plus personne. Désolé pour le psat de Lolita et qui chaque semaine se coltine ses problèmes d'âge, de chat, de harpe, d'ascenseur et j'en passe. Et ça, c'était avant d'avoir passé une heure et demie avec Nagui. Courage Lolita et surtout, courage docteur.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour cette première, Julie Gayet dans la bande originale. Merci d'être revenue, Lolita Chama. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, nous, demain, même heure, même adresse, sur Inter, avec Stéphane Plaza. Mais tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.